Bien, bonsoir. Merci d'être venu écouter, revoir ou voir Franck Bouys à l'occasion de la parution de son 4e roman à la Manufacture de Livres, Né d'aucune femme, qui est sorti là début janvier et qui nous a de nouveau bouleversé, comme j'avais l'occasion de le lui dire, et beaucoup de lecteurs et beaucoup de critiques aussi. Né d'aucune femme, c'est l'histoire d'une femme, d'une jeune fille, Rose, qui a 14 ans. Après, il y a un tourbillon autour d'elle, il y a beaucoup d'autres personnages en lien avec elle. Mais Rose, je ne peux pas m'empêcher de la percevoir comme une sorte de petite sœur ou d'ancêtre de Gus, d'Abel, de Cory, de Georges, d'Anna, de Joseph, de Victor, tous ces personnages qui peuplent tes romans et qui sont encore là aussi au fond de notre mémoire de lecteur. Et au moment de l'apparition de Glaise, déjà en 2017, le précédent, tu nous avais donné une sorte de clé de ton imaginaire, de ton projet, si on peut dire ça, d'écrivain. Tu nous avais dit que chacun de tes romans, et c'est vrai en fait quand on le voit, s'inscrivait dans une saison particulière. Donc avec Grossir le ciel, c'était l'hiver, dans les Cévennes, au fond des Cévennes. Plateau, c'était l'automne. Sur le plateau de Mille Vaches, en Corrèze. Glaise, donc, c'était le plein été 1914, à Saint-Paul-de-Salers, et au pied du puits violent, et Né d'aucune femme, donc, se situe naturellement. On attendait le printemps, et il est là. Dès qu'on ouvre le prologue, je veux juste commencer avec cet incipit qui est toujours très, très fort, qui ancre. Chacun de tes romans commence d'ailleurs par un « ce » ou un « cela », un pronom démonstratif, j'ai remarqué. « Cela n'a pas encore eu lieu, il ne sait rien du trouble. Ce sont des odeurs de printemps, suspendues dans l'air frais du matin, des odeurs d'abord, toujours, des odeurs maculées de couleurs, en dégradé de vert, en anarchie florale confinant à l'explosion. » Donc avec le printemps comme ça qui éclot dès l'ouverture de ton livre, est-ce que ça referme quelque chose de ce cycle des saisons que tu avais entamé? Est-ce que l'histoire de Rose s'inscrit naturellement dans ce projet, si on peut dire?
J'imagine, oui. D'abord, je n'ai pas vraiment de projet, je m'en rends compte après. Mais c'est très juste, chaque livre naît de l'inachèvement du précédent. Rose était sûrement en germe dans Gus. C'est très juste, ça. Après, le seul projet que j'avais, que je savais ce que je voulais faire, c'était effectivement décliner une saison par livre, pour une raison que je ne saisis pas encore, mais voilà, c'était, je voulais faire un tout comme ça, sans placer mes livres du tout dans les mêmes lieux, avec les mêmes personnages, etc. Mais j'ai un rapport tellement charnel à l'écriture, mais aussi à tout ce qui se passe quand j'écris, c'est-à-dire cette espèce de possession, d'être possédé par les personnages, mais aussi par tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les odeurs, les couleurs, la durée du jour, etc. Et donc, les humains ne sont pas les mêmes en fonction des saisons. Et voilà, j'avais cette petite ambition-là dès que j'ai posé les premiers mots de Grossir le ciel. Ouais. Donc j'ai achevé quelque chose, effectivement. Une espèce de cycle comme ça, mais très personnel.
L'ancrage est bien entendu extrêmement important dans ton œuvre, ce territoire, ce terreau dont tu viens et dont vient aussi Rose. Pourtant, dans Né d'aucune femme, il y a une sorte d'imprécision, d'indétermination de l'époque. Alors, on pense au XIXe siècle, mais c'est pas dit comme tel. On pense qu'il s'agit d'un territoire qui n'est pas très loin de chez toi. Mais pourquoi cette volonté de ne pas déterminer précisément géographiquement, cette fois-ci, les lieux?
Ça aussi, je m'en suis aperçu petit à petit au fur et à mesure des bouquins, c'est que... Ça devient de plus en plus anonyme en termes de lieux. J'étais plus précis avec Grossir le ciel parce que ça me semble pas très important. Ce qui est le plus important, ce sont les personnages. Après, il y a des indices dans le bouquin. On peut retrouver les lieux, mais ce n'est pas ça qui est... Puis je l'avais conçu un peu comme un conte certainement cruel, mais avec toujours cette imprécision qu'il y a dans les contes, on ne sait jamais où ça se passe, etc. Voilà. Après, c'est sûrement aussi, pour y avoir réfléchi après, lié au fait que c'est sûrement l'endroit le plus proche de chez moi. Il se trouve qu'il y a 3 ans à peu près, je suis retourné vivre à 2 pas d'où je suis né et que je me suis retrouvé à retrouver les lieux de mon enfance où j'allais me promener, où j'allais à la pêche, où j'allais... et notamment un monastère du XIIe siècle posé là en pleine forêt. Il se trouve que, bon, pour faire court, un seigneur du coin avait trucidé un moine parce qu'il avait piqué la place à un de ses neveux. Et donc voilà, il réglait ça de façon très, très radicale. Et donc le pape avait dit à ce seigneur d'expier sa faute de la façon qu'il souhaiterait. Et lui, par défiance, il a construit une chartreuse en plein milieu de la forêt, qui est devenu un monastère après de Chartreux. Et j'ai cet endroit-là sous le nez depuis des années, depuis mon enfance, en fait. Et cet endroit est truffé de souterrains, en fait. Ça va très, très loin. Et quand j'étais gamin, en fait, j'entendais des voix à proximité. Alors, imaginez ou pas, je ne sais pas. Et ça a comme ça créé une espèce de fantasmagorie très personnelle. Ça a dû travailler comme ça dans ma mémoire. Et... la voix de Rose est arrivée par ces souterrains il y a peu de temps, en fait. Et du coup, cette rencontre entre ce lieu où j'étais retourné vivre et cette histoire de Rose n'est pas tombée du ciel, mais a surgi de la terre. Voilà. Et donc, j'ai prêté, d'habitude, j'écris de la main droite, et j'ai prêté ma main gauche à Rose, puisque elle, cette Rose-là, elle sait à peine lire et écrire. Et donc, elle va raconter son histoire avec ses propres codes, son propre vocabulaire, parfois inventé, etc. Et donc, j'ai appris à écrire avec elle. Voilà.
Et donc, tu parlais de contes. En effet, on y pense volontiers quand on te lit. On pourrait dire quoi ? Alors, il était une fois un pauvre paysan qui vendit sa fille aînée à un riche seigneur des environs. Et cette histoire cruelle, mais en fait c'est une histoire aussi d'une petite paysanne qui est aussi habituellement une histoire banale dans ces campagnes-là, où des jeunes filles étaient en effet vendues, enfin pas forcément vendues, mais du moins qui se retrouvaient dans des riches familles, sauf que là elle va tomber chez un homme qui est une sorte de monstre qui vit avec sa mère, ou du moins cette vieille femme qui est une sorte aussi de sorcière, qui va enfermer Rose. Donc c'est vrai qu'en effet on pense à un conte de fées, un conte noir, et c'est le destin de cette jeune fille, mais à rebours, puisqu'en fait c'est à travers des cahiers que nous allons découvrir son histoire. C'est pas directement sa voix qu'on entend d'abord. C'est la voix d'un prêtre qui va recueillir cette confession presque post-mortem, pour le coup. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ce début, de cette pourquoi avoir justement choisi cette sorte de mise en abîme, puisque c'est le prêtre qui va recueillir ses cahiers, les cahiers de Rose qu'elle a écrit. Pourquoi ce choix-là ? Pourquoi pas directement Rose qui nous raconte son histoire ?
Je ne sais pas. ce que je sais en tout cas, c'est que quand j'ai commencé le livre, c'était Rose qui me parlait. Il y avait cette histoire-là. Et en fait, c'est un livre sur les révoltes. Voilà. C'est toujours pareil, c'est comment on s'en sort face à un destin qui semble inéluctable. Il paraît que j'ai un certain goût pour la tragédie grecque. Et donc oui, en fait, sans rien dévoiler du livre, ça commence comme un conte de fées, effectivement. Alors les contes de fées, ils sont même les contes de fées qu'on m'a racontés dans mon enfance, en y réfléchissant, ils sont très noirs. Hein. C'est très très noir, les contes de fées. Sauf qu'on fait toujours l'économie de l'ogre. On sait jamais d'où il vient. Mais moi, je suis allé explorer la figure de l'ogre, vraiment. J'ai essayé de montrer d'où il vient. Alors oui, c'est un roman polyphonique, clairement. Polyphonique, ce n'est pas vraiment un roman choral, puisqu'il y a plusieurs voix à la première personne, et il y a deux voix à la troisième personne du singulier. C'est un choix. Les personnages qui parlent à la première personne, c'est-à-dire Rose avec ses cahiers, le curé, et puis un autre personnage, ils sont uniquement dans le ressenti. C'est-à-dire, chacun est dans son ressenti, avec son propre vocabulaire, son propre lexique, etc. Et les deux voix à la troisième personne, j'ai eu le sentiment que c'était pour éclairer les ombres. Voilà. Alors, ce curé de campagne, au début du livre, il reçoit en confession une femme. Et lui, il connaît la voix de tous ses paroissiens. Il les connaît. Et cette voix-là, il ne la connaît pas. Et ça le trouble. Et cette femme lui dit qu'on va venir le chercher dans les jours à venir et qu'on va lui demander d'aller bénir le corps d'une femme dans un asile proche et qu'il devra, quand il sera seul avec le corps, soulever la robe et récupérer des cahiers. Et elle part en courant. Ça part comme ça. Alors, ce seront les cahiers de Rose d'une gamine de 14 ans, je ne vous en dis pas plus. Ce curé-là va être mis devant une histoire. Lui qui a toujours suivi tous les préceptes de la Bible, enfin Dieu, etc., qui s'est forgé comme ça une doctrine, va tout remettre en question face à ses cahiers. Voilà. Lui, ça va être sa première révolte. Et puis, il y a l'histoire de Rose en parallèle. Donc, il va comme ça dérouler l'histoire de Rose au fur et à mesure du bouquin. Je fais toujours attention à ce que je dis, parce que j'ai peur d'en dire trop. Parce qu'effectivement, on va aller de... C'est un bouquin aussi plein de suspense, évidemment. Par contre, chaque voix est très différente, évidemment. Le curé, lui, qui vient d'une famille plutôt... d'une bonne famille, comme ça arrivait souvent dans ces cas-là, a un langage... c'est un peu plus précieux, on va dire. Alors que Rose, elle, dans l'endroit où elle se trouve quand elle écrit, elle est obligée d'aller très vite. Elle a un temps qui est, pour une raison très simple, que je vous dévoilerai pas. Et donc c'est une espèce de logorée comme ça. Elle va dérouler tous ses souvenirs. Et elle va le faire à sa façon. Par exemple, elle ne connaît pas le point d'interrogation. Il y a plein de codes narratifs qu'elle ne connaît pas. Les dialogues aussi. Quand elle relate un dialogue, c'est mêlé au texte, comme ça. Alors, il n'y a pas beaucoup d'indications, mais je vous assure que je les ai travaillés, ces passages-là, pour ne jamais me perdre moi, donc ne pas perdre le lecteur aussi. Et donc, on est pris, j'aime bien le mot tourbillon, qu'elle reprend aussi, on est pris dans une espèce de tourbillon de l'histoire de Rose. Et moi, je ne pouvais pas m'en dépêtrer de cette histoire de Rose. Je n'ai jamais écrit dans une telle frénésie. C'est-à-dire, il fallait que j'aille au bout. Je ne savais pas ce qu'il y avait au bout. J'espérais qu'il y ait de la lumière. J'espère qu'il y en a. Comme disait Guilvic, je creuse l'obscurité pour donner du travail à la lumière. Ben, j'ai essayé de donner du travail à la lumière. Ouais. Et puis, il y a une autre voix, qui est la voix d'un palefrenier. Alors, je suis assez mystérieux, vous ne savez pas d'où il vient. Mais... Et lui, en fait, sa voix à lui, il est face à quelque chose qu'il n'avait pas prévu. C'est quelque chose que j'ai exploré aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de soi quand on n'a pas d'identité ? C'est un personnage sans identité. Donc c'est ce thème-là aussi, ce qui traverse le livre, il y a la notion d'identité, il y a la notion de féminité, effectivement, presque féministe. Donc des thèmes qui peuvent être très contemporains, effectivement, très... Et moi, je le traite à ma façon au 19e siècle, effectivement, il n'y a pas de secret en disant ça. Et tout au long du livre, il y a cette notion aussi qui traverse tous mes autres livres, c'est la notion de lignée, d'héritage, de transmission. Cette espèce de châtelain, ce notable et sa mère, ils sont obsédés par ça. La lignée. Voilà.
Et justement, c'est pas non plus un hasard si ça se passe au printemps, puisque c'est Rose est venue au printemps aussi. Il y a la mère donc, de Rose qui parle pas à la première personne, mais qui parle aussi. Enfin, on l'entend parler, on entend aussi la malédiction si familiale qu'il y a eu, puisque cette Rose, elle est punie de d'avoir été d'une certaine façon la première d'une lignée de quatre sœurs, et donc c'est quelque chose d'assez terrible, donc une sorte de punition qui va lui tomber dessus. Et donc, comme dans tous tes romans, il y a une forme, en effet, de tragédie comme ça en marche et contre lequel le personnage ne peut rien. Et en même temps, chacun de tes romans interroge justement, sans le faire de façon frontale non plus, mais la question de la fatalité, du destin. Est-ce que pour Rose, il en est différemment que pour tes autres personnages, ou est-ce que vu que c'est une jeune fille, là aussi, est-ce que c'est comment l'as-tu envisagé cette notion de Dieu, de fatalité, ou de comment ça s'est apparu avec Rose, cette question-là, puisque tu l'interroges dans chacun de tes romans.
Alors je la connaissais pas bien au début, cette petite Rose, et j'ai découvert qu'elle avait une force incroyable. Mmh. Incroyable. Plus j'avançais en écriture, plus elle prenait de force, de malgré tout ce qui lui est arrivé. Et en même temps, elle me donnait de la force aussi d'aller au bout de cette histoire. Donc la notion de fatalité, là, je la remets en question, effectivement, dans ce livre-là. Parce que même dans les situations les plus terribles, elle trouve un chemin. Ça peut être un cheval, ça peut être... voilà. Il y a des moments comme ça où elle trouve... un peu de lumière pour aller plus loin, pour survivre. Elle y croit. Voilà, elle y croit et elle va y croire jusqu'au bout. C'est compliqué de...
Mais justement, est-ce que ce ne sont pas les mots qu'elle trouve et que tu lui fais trouver qui sont justement cette force qu'elle va réussir à surmonter la difficulté d'être et d'être justement menée par le destin? Est-ce que ce n'est pas justement en maîtrisant son histoire à elle, en l'écrivant ou en l'écriant, puisqu'elle, c'est un très joli passage là aussi où elle va de écrire à écrier, puisque ça a à voir aussi avec son histoire. Elle va crier à un moment, elle va crier d'effroi parce qu'on va lui enlever quelque chose de terriblement douloureux pour elle, et donc ça va le conduire justement à aussi accoucher sur le papier cette douleur là est-ce que c'est pas dans les mots et donc dans l'art, comme pour le personnage d'Anglaise, c'était dans la sculpture de la terre. Est-ce que c'est pas dans l'art que tes personnages justement trouvent une sorte de rédemption ou d'apaisement?
Ben oui, exactement. Oui, et même dans Plateau, avec ce Georges et sa caravane pleine de bouquins, qui se met à lire des auteurs qu'il n'aurait jamais lus. Joseph. Et effectivement, ouais, je dois être imprégné de ça. C'est de ces gens-là qui normalement sont liés à un destin, c'est-à-dire on ne peut pas dévier de ça, l'art, ce n'est pas pour eux, etc. Et cette gamine-là, effectivement, elle va se construire une espèce de grande maison de mots, à sa façon, avec des murs parfois bancals. Mais n'empêche que cette maison, elle est pas prête de tomber par terre, quoi. Et même s'il y a des pierres qui sont pas mal ajustées, avec des mots comme voilà, qu'elle tord un peu à sa façon, parce que simplement il lui évoque quelque chose de, des fois même comme elle pique le journal le soir, elle lit des mots, elle les comprend pas, mais ça évoque quelque chose en elle, comme nous quand quand je lis parfois ou que j'écoute de la musique sans forcément comprendre les paroles, ou même quand je lis des traductions où je ne connais pas forcément le nom des plantes, etc. C'est la musique, souvent, qui fait que ça existe. C'est-à-dire qu'il y a une émotion qui traverse, qui vous traverse. Comme la musique Voilà, si je me plante là avec un violoncelle et que je vous joue des suites de Bach, je vais vous transmettre une émotion, enfin, j'espère. Il va se passer un truc d'immédiat. Ben, l'écriture, les mots, c'est ça aussi. À mon avis, même, c'est l'ambition première de la littérature, c'est ça. C'est de transmettre ce fil émotionnel comme ça, qui n'est pas simplement une histoire, qui est liée à ce truc qui nous dépasse, qui fait qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Mais n'empêche qu'on est tellement imprégné de cette émotion-là que ça devient du sens, au bout du compte. C'est-à-dire que souvent, en fait, la musique précède le sens. C'est assez étonnant comme phénomène. Ça m'a toujours troublé. C'est pour ça que j'écris à la main, j'imagine aussi. C'est pour ça que je serais incapable de réécrire la page que j'ai écrite aujourd'hui. Je serais incapable de la réécrire demain, de la même façon, etc. Il y a quelque chose de mystérieux comme ça qui est de l'ordre de la séparation. J'aime beaucoup cette phrase de Derrida qui dit « Il faut se séparer pour rejoindre en sa nuit l'origine aveugle de l'œuvre. » Edmond le dit à un moment, je suis aveugle. Mmh. C'est vrai. Donc, voilà. Et donc cette notion-là de rédemption par l'art, qui pourrait être très actuelle, c'est pas parce qu'on est dans un milieu social qu'on est exclu de ça, surtout aujourd'hui en plus. Et c'est pas non plus parce qu'on y a accès qu'on va y aller, hein. On est bien d'accord aussi. En fait, moi, je veux y croire. C'est peut-être aussi mon expérience toute bête, hein. C'est-à-dire que moi, je viens pas du, j'ai pas du tout fait d'études littéraires et je suis un autodidacte pur, un instinctif. Il y avait pas beaucoup de livres chez moi, hein, et puis ceux qu'il y avait, ils m'intéressaient pas du tout, hein. Donc j'allais comme ça dans des librairies, dans des bibliothèques, et je prenais n'importe quoi. Alors des fois c'était pas du tout pour moi, c'était pas. Mais comme ça j'ai lu de la poésie, j'ai lu Maupassant, j'ai lu Mallarmé, j'ai lu Dumas, j'ai lu Hugo, j'ai tout. Et je pense que ça a apporté aussi. J'ai longtemps fait mes gammes aussi en écriture, je me suis mis à écrire au même moment. Et je pense que cette musique personnelle, elle vient de cette espèce de gloubi-boulga, de tout ce que j'ai ingurgité, sans du tout préoccupation de genre. Ça ne m'a jamais effleuré, les genres, quoi. Je prenais les livres pour ce qu'ils étaient, pour ce qu'ils m'apportaient comme émotion, et donc je ne me préoccupais pas de savoir si c'était un livre policier ou de la poésie. Ça me parlait ou ça ne me parlait pas.
Donc les mots de Ross, ce sont tes mots, d'une certaine façon, d'autant plus, quoi, c'est un retour aux origines, du point de vue à la fois géographique, du point de vue intime, si je comprends. Et est-ce que, justement, ce que tu fais, ce dont tu parles, est-ce que tu peux nous lire, puisque tu lis très bien ce passage, alors sans rien déflorer de l'intrigue, hein, parce qu'il n'est pas question, page 268, il y a un passage très beau où Rose parle de ce que les mots lui procurent.
En bas de la page.
Oui, tout à fait. Exactement. Ah.
Je sens bien que j'ai fini de vider mon sac de mots, qu'il m'en a manqué pour vraiment dire les choses comme je les ressentais, au moment où je les ressentais. Que des fois, ceux que j'utilise ne collent pas exactement, que j'aurais besoin d'en connaître d'autres, plus savants, des mots avec plus de choses dedans. Les mots, j'ai appris à les aimer tous, les simples et les compliqués, que je lisais dans le journal du maître, ceux que je comprends pas toujours et que j'aime quand même, juste parce qu'ils sonnent bien. La musique qui en sort souvent est capable de m'emmener ailleurs, de me faire voyager en faisant taire ce qu'ils ont dans le ventre, pour faire place à quelque chose de supérieur qui est du rêve. Je les appelle les mots magiciens. Utopie, radieux, jovial, maladrerie, miscellanée, mitre, méridien, Piracanta, Mausolée, Bilvesée, Iota, Ir, Parangon, Godeluro, Mauresque, Jurisprudence, Confiteor, et tellement d'autres que j'ai retenus sans effort, pourtant sans en connaître leur sens. Ils me semblent plus légers à porter que ceux qui disent. Ils sont de la nourriture pour ce qui s'envolera de mon corps quand je serai morte. Ma musique à moi, c'est peut-être ce qu'on appelle une âme. Ces mots, j'voudrais les emmener jusqu'au bout, gravés dans les feuilles de mon cahier, bien mieux que des initiales sur un rocher. J'ai la mémoire de ces mots qui fabriquent un monde rien qu'à moi et qui d'habitude suffisent à me transporter loin d'ici, loin de mes souvenirs aux Landes, loin de mon petit perdu, d'habitude.
Donc est-ce qu'on peut dire avec Rose que les mots que nommer, est-ce que c'est peut-être sa seule liberté peut-être ? Est-ce que c'est comme ça que tu le vois aussi ?
Oui, c'est nommer l'innommable. Ouais.
Et qu'est-ce qui est innommable dans le destin, dans ce destin-là ?
Son histoire, c'est innommable. Et en même temps, c'est sa liberté, c'est sa seule liberté. C'est de transporter les mots ailleurs qu'en dehors d'elle. Voilà. Transporter les mots. Elle ne pense absolument pas que ces mots seront lus par quelqu'un d'autre. Mais elle a besoin de les sortir d'elle, ces mots-là. Même s'il y a un espoir. Parce qu'il y a cette femme aussi à qui elle a demandé les cahiers pour pouvoir écrire, etc. Elle n'est pas du tout dans la pitié, elle n'est pas du tout là-dedans. Elle est de bout en bout, elle est dans la force. Enfin, j'en suis intimement persuadé. Mais oui, à un moment donné, il faut nommer les choses. Il faut les nommer. Même les pires, il faut les... Voilà. Il y a un autre passage aussi avec un autre personnage qui s'appelle la conteuse, où elles ont comme ça une discussion sur ce qu'on peut nommer et ce qu'on ne peut pas nommer. Et que parfois, on touche à l'oubli quand on ne nomme pas les choses. Donc les conseils, bon bref.
Donc c'est vrai que ce qu'elle nous raconte ou ce qu'elle nous conte, qu'on l'écrive ou C-O-N-T-E ou C-O-M-P-T-E, parce que la conteuse, c'est une conteuse aussi de
avec C-O-M-P-T.
P-T-E, en effet. Donc c'est aussi très, très important, mais aussi, d'une certaine façon, le sens aussi de ton œuvre, de nommer l'indicible, l'innommable, ce qui n'a pas de voix, ce qui n'a pas de lieu d'être, ou ce qui est invisible. Ça rejoint aussi le sens de ton écriture, d'une certaine façon. Donc Rose, c'est toi. Vraiment ?
Je suis un peu elle, ouais. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais le seul truc qui me semble intéressant quand on écrit, c'est d'essayer de mettre des mots sur le silence, sur ce qui est pas dissible. Ouais, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a entre les mots ? Comment faire parler des gens qui ne parlent pas ? Donc, qu'est-ce qu'ils se disent quand ils ne se disent pas les choses ? C'est confus, hein, mais c'est vraiment ça. Porter la voix du silence. Oui, ça, c'est... Parce que cette histoire de Rose, c'est un grand silence. C'est un grand silence jusqu'au moment où même ces mots sont du silence. Et en même temps, ce sont des mots. Et c'est sa façon de raconter son histoire qui fait que ce long cri de silence fait sens, en fait.
Mais c'est pas non plus un destin anodin, puisque cette jeune fille va grandir très vite. Et c'est justement cette métamorphose aussi que tu racontes. Cette petite fille devenue jeune fille qui va avoir ses premières règles à la Toussaint. Donc c'est juste après qu'elle va être vendue en effet à cet homme. Et donc elle est sa mère qui lui explique qu'en effet maintenant le sang c'est le signe. Donc il y a quelque chose là aussi d'une sorte de destinée en marche. Et on sent la menace qui peut peser sur elle, cet homme qui est menaçant, qui peut lui en vouloir d'une autre façon que de simplement la servir en tant que servante, que bonne, quoi, en fait. Et est-ce que c'était aussi, là aussi, d'aller jusqu'au bout de ce personnage, cette féminité-là, avec Rose, avec cette jeune fille juste de 14 ans qui dit en avoir 16? Est-ce que c'était explorer aussi l'enfantement des mots et l'enfantement aussi de tout court, comme la couverture aussi le laisse présager? Est-ce que c'était déjà à l'œuvre ou est-ce qu'elle s'est venue petit à petit, cette idée?
Ah, c'est venu petit à petit. Il y a multitude d'enfantements dans ce livre. Mmh. Et je ne m'en suis pas rendu compte en l'écrivant. Il y en avait un qui paraissait évident, mais je n'avais pas vu les autres. Et c'est jusqu'au bout, en fait, ça se termine par un enfantement qu'on peut voir ou ne pas voir. Mais moi, je vous le dis.
Mais il y a l'enfantement évident et puis il y a les autres.
Et oui, il y a tous les autres, effectivement. Mais ça vient au fur et à mesure. C'est cette idée du sang qui rejoint l'idée de la lignée. Ça, c'est quelque chose que je le percevais pas en écrivant. Mais effectivement, le sang traverse tout le livre. Plusieurs sangs, même, en fait. Puisque c'est ce qui exprime. Et je ne savais pas que j'irais... Je ne savais pas que j'irais au bout de l'ogre. Je ne savais pas que j'irais au bout de cette femme qu'on appelle la vieille. Je ne savais pas que j'irais au bout de Rose, au bout de ce curé, etc. Mais en tout cas, je ne fais jamais d'économie quand j'écris. C'est-à-dire que je vais au bout du personnage, quitte à ce que ça me bouleverse. Parce que ce n'est pas simple, forcément. Il y a des choses qu'on arrive à écrire, qu'on n'aurait jamais pensé écrire, c'est assez étonnant. Mais c'est cette idée aussi de... Je parlais de séparation, d'effacement et tout ça, Effectivement, c'est Rose qui raconte son histoire, c'est le curé qui raconte son histoire, et c'est aussi moi. C'est aussi moi. Donc, du coup, c'est la question.
donc, Rose, en fait, elle a pris possession... De toi, de ta plume.
Oui, Malraux disait ça très bien. Voilà, c'est de l'ordre de pour accéder comme ça à quelque chose à l'intime, faut accepter d'être possédé. Voilà. Et c'est vrai que quand j'écris, je suis absent au monde pour c'est-à-dire il y a rien d'autre qui existe. Et c'est très troublant parce que j'écris le livre assez rapidement, finalement, enfin, assez rapidement pour moi. Et donc, je suppose, en fait, que je l'avais déjà écrit dans ma tête, sans le savoir. Je savais que... J'imagine que cette histoire-là était là. C'est ça qui est assez troublant. Et même après, sur les labs... je me mets à écrire sur mon cahier, et puis, même quand je pose le stylo et que je me retrouve à faire autre chose... Ben Rose est là, Gabriel est là, Edmond est là, Charles est là, la conteuse, etc. Ça n'arrête pas, c'est une espèce de... Et tous ces personnages-là, ils naissent pas de nulle part, quoi. Ils viennent aussi des autres personnages d'avant. Ce qui fait que, à Noël, on arrive à être de ces tablés maintenant. C'est impressionnant, quoi.
Donc Rose était donc là bien avant de commencer l'écriture du roman, finalement.
Oui, c'est évident. Elle était là. Oui, mais peut-être que petit à petit, on met des touches. C'est comme une grande toile, finalement, j'imagine, ou plutôt. C'est assez bizarre. C'est comme si je. Ça me vient comme ça. C'est comme si je partais chercher une source, en fait, et que je creuse. Eh ben, l'eau se met à jaillir, mais c'est comme une espèce de truc comme ça, c'est une espèce de premier jet de frénésie d'écriture, sauf qu'après, l'eau, il faut l'amener jusqu'à la maison. Hein. Sinon, si elle jaillit pour rien, ça ne sert à rien. Quoi. Donc après, tout le travail comme ça de musique et de que ce que me raconte Rose devienne compréhensible, et Gabriel, etc., de construction du roman, ça, c'est tout ce qui est le fait d'amener la canalisation jusqu'à la maison, et qu'elle soit potable, l'eau.
Parce que l'incarnation du mal, tu n'as eu de cesse depuis plateau, Glaise, de le mettre en scène. Il y avait des personnages monstrueux, Valette dans Glaise, on s'en souvient. Dans le plateau, c'était Karl le boxeur avec ses élans mystiques, mais en même temps de fou. C'est vrai que voilà, ça nous glaçait le sang. Dans Né d'aucune femme, quelle était la pierre supplémentaire que tu voulais poser à cet édifice-là de la construction du mal, M-A-L et M-A-L-E?
Je pense que je voulais aller au bout de cette figure-là. Alors, moi, j'ai eu une éducation judéo-chrétienne. J'étais enfant de cœur. J'ai toujours eu une Bible. Voilà, et il n'y a pas très longtemps, je relisais des passages de l'Ancien Testament et le livre de Job, notamment. Et je pense que tout ça, ces figures-là de très manichéenne, ça m'a habité pendant très longtemps, ça continue de m'habiter. Et cette simplicité, parfois, j'avais besoin d'explorer ça. C'est une phrase que je déteste, c'est de dire « c'est plus compliqué que ça ». Non, cette complexité, en fait, de la caractérisation du mal. En littérature, ça me semble intéressant. Mais pour ça, oui, encore une fois, il ne faut pas faire d'économie, il faut aller au bout du truc. Et en un seul livre, je ne pouvais pas. Quand je disais que chaque livre était inachevé, effectivement, chaque livre est... Et heureusement que c'est une forme d'inachèvement. Il faut que le livre soit inachevé. J'espère que celui-ci est inachevé. Ça serait bien pour le prochain.
Et justement, quelle est la... Maintenant que tu as posé cette histoire, que tu l'as écrite... que tu la reçois maintenant de la part de tes lecteurs, dans le ressenti, justement, dans l'émotion, puisque Rose est présente aussi. Quand on la lit, elle nous accompagne longtemps après. Comment envisages-tu l'après-Rose? Est-ce que tous ces personnages, même d'avant jusqu'à Rose, accompagneront encore ce que tu vas faire après? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as achevé, que tu vas passer à autre chose maintenant?
Alors évidemment, je suis en train d'écrire, en fait, pour tout vous dire.
Tu écris tous les jours?
Ben oui, ouais. C'est une drôle de maladie. Et en fait, je me dirige vers l'enfance. Je vous en dis pas plus, mais voilà. Et c'est pas... Si j'y réfléchis, j'ai pas envie d'y réfléchir aujourd'hui. Mais c'est le lien est évident, m'apparaît évident. Rose. Mm. Et voilà, je suis avec une fratrie de gamins aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Il ne faut pas qu'ils aillent trop vite non plus. Mais voilà, je suis avec eux ou ils sont avec moi, je ne sais pas. Enfin, il n'y a pas qu'eux, il y a d'autres personnages, mais c'est un drôle de... C'est un drôle de bazar, comme diraient les Belges.
Donc depuis Grossir le ciel, où Gus et Abel étaient des gens quand même d'un certain âge, donc là maintenant il y a une sorte de... puisque l'anglaise c'était un jeune homme de 15 ans, avec Anna aussi. Là donc justement il y a une sorte d'exploration aussi, à la fois de la féminité et à la fois de quelque chose qui remonte le temps aussi, de certaine façon, pour toi aussi.
Ouais, c'est sûrement, oui. Mais je dis toujours que... Tous mes livres partent de l'enfance, mais tous. C'est un truc, voilà, je dis toujours, cette espèce de grand sac d'émotions dans lequel je vais piocher, que j'ouvre régulièrement et qui me sert à écrire, voilà, recomposer sa mémoire. C'est ça, l'écriture, c'est ça. C'est pas l'imagination, ça n'existe pas. C'est toute une sorte de mélange d'expériences, de lectures, enfin tout ce qu'on a vécu, qui font que, tout ça, ça fait de la chair de mots. Donc oui, c'est tout part de l'enfance. Donc en fait, je suis parti de l'enfance, c'est comme une espèce de boucle, et j'ai l'impression que j'y retourne, mais de façon frontale cette fois-ci, avec des personnages de gamins.
Et est-ce que... Est-ce que cette héroïne rose, comme d'autres, puisqu'on quand le lecteur s'empare d'elle ou qu'elle s'empare de nous, du moins, on pense à certaines héroïnes qu'on a déjà lues. Est-ce que pour toi, elle faisait écho à certaines de tes lectures, puisque c'est très important le sous-texte, enfin les influences, les inspirations. On sait que tu es amoureux de la littérature américaine, de plein d'auteurs, mais est-ce que cette rose-là, elle était nourrie d'autres figures?
Ben oui. Mes premiers amours, c'est avant tout Dickens, Stevenson, Melville, Conan Doyle, Verne, Eugène Sue, Victor Hugo. J'avais un amour immodéré pour le 19e siècle. Donc j'imagine que ouais, tout ça, ça fait que... Et en même temps, je voulais pas faire à la manière d'eux. C'est-à-dire, je voulais vraiment que ce soit ma voix qui soit posée sur cette histoire qui se passe au 19e siècle. C'est pour ça que le ressenti de ces personnages-là est aussi important. Même si je ne peux pas faire l'économie de la façon de parler du curé, mais après, c'est des façons... Même, je pense que c'est ma voix, ma propre voix, etc. Mais j'ai planté un décor. Tout ça, ça jaillit aussi de cette époque-là, effectivement, que je connais bien. Puis quand on parlait du silence tout à l'heure, mais j'avais vraiment besoin de silence pour écrire cette histoire. Et je voulais pas de voiture, je voulais pas de... Il fallait qu'il y ait une espèce de... Comme ça, la forêt, l'idée des moines, enfin les moines aussi, l'idée du site, tout ça, c'est... En y réfléchissant après, bien, tout ça, c'était sûrement prémédité, sans que je le sache. Donc voilà, oui, évidemment que mes lectures ont pesé dans la balance.
Il n'y a pas un personnage particulièrement qui t'a influencé ou qui t'a marqué
Vraiment pas, non. Il n'y a pas de personnage qui m'a... Alors, il y a des journalistes qui font des... C'est rigolo, des liens avec des gens que je n'ai pas lus, parfois. Mais c'est bien, voilà. Thomas Hardy, les Sœurs Brontë, etc. Bon, il y en a que j'ai lus, mais il y en a que j'ai... On a besoin de faire des correspondances comme ça, non? Je crois que c'est juste moi qui raconte une histoire, c'est tout.
Est-ce que dans ce roman particulièrement, ou peut-être dans les suivants qui vont suivre, puisqu'apparemment tu ne vas pas t'arrêter à ce cycle-là, est-ce que Rose justement va avoir une importance particulière pour ce tournant-là, cet achèvement-là? Est-ce que ça va avoir une importance particulière pour construire après cette œuvre que tu poursuis? Est-ce que tu penses que ce personnage-là, qui polarise beaucoup de choses de la féminité, de l'enfance, de la maternité, de l'enfantement, est-ce que tu penses que c'était une étape importante et en quoi pour la suite?
Ben, je ne sais pas combien l'escalier fait de marche. Mais en tout cas, voilà, c'est une marche supplémentaire. Et j'espère qu'elle va me permettre d'inventer une cinquième saison qui n'existe pas. Voilà.
Merci beaucoup à tous d'être venus écouter ou réécouter Franck Bouys, qui est venu nous parler de façon si fort de ce nouveau personnage, de ce nouveau roman Né d'aucune femme. Merci Franck d'être venu, et on espère un très très beau succès Destin à Rose et à ton écriture à venir aussi, celle qui va être imprégnée de tous ces personnages là qui nous hantent, nous aussi, nous obsèdent longtemps après avoir refermé ton livre.